Écoutez bien ce que je vais dire. Dieu n'a nul besoin de se déplacer là où il compte utiliser sa force agissante. Il lui suffit d'utiliser son Esprit Saint, capable d'atteindre les confins de la création. Une bonne compréhension de ce qu'est l'Esprit Saint, c'est-à-dire la puissante force agissante de Dieu, peut vous donner la certitude que Dieu réalisera ses promesses. Quelle religion dispense, selon vous, cet enseignement, selon lequel le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais une force? Quelle religion dispense, selon vous, cet enseignement? Je n'ai pas le temps de vous laisser réfléchir, et vous avez peut-être une petite idée. Il s'agit des témoins de Jéhovah, selon leur site officiel. Mais les témoins de Jéhovah ne sont pas les seuls à avoir, pour le coup, une mauvaise compréhension du Saint-Esprit. Selon un sondage effectué en 2009 aux États-Unis, un sondage auquel Jonah nous a sensibilisés il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous rappelez, 58% des chrétiens aux États-Unis pensent que le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais un symbole de la puissance de Dieu. Et je serais vraiment curieux, très curieux de savoir si cette stat était la même en France, où j'ai rencontré plusieurs personnes méfiantes ou sceptiques quand on leur parle du Saint-Esprit. Ça me rappelle de l'histoire de ce jeune homme qui a lu l'histoire du baptême de Jésus. Vous savez, dans l'évangile, Dieu dit ceci, dans l'évangile de Luc ou de Matthieu notamment, « Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. » Ça me rappelle donc l'histoire de ce jeune homme qui a lu l'histoire du baptême de Jésus, qui se pose beaucoup de questions sur la foi chrétienne et qui demande un jour à un pasteur, « Monsieur le pasteur, Dieu le Père, je comprends. Le Créateur de l'univers, aucun problème. Dieu le Fils, je comprends. Dieu devenu homme dans la personne de Jésus de Nazareth, aucun problème. Mais qui est ce saint oiseau? Qui est ce saint oiseau tombé du ciel ?» Alors le Saint-Esprit n'est ni un oiseau, ni une force, ni un symbole de la puissance de Dieu, c'est une personne, la troisième personne de la Trinité, Dieu le Saint-Esprit, distinct du Père et du Fils. Mais attention, je vais dire un gros mot, bouchez-vous les oreilles, consubstantiel. Consubstantiel à eux, c'est-à-dire ayant la même nature, la même substance, la même essence divine. Et qui va être envoyé après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus à la Pentecôte pour trois choses, et ce sont ces trois choses que j'aimerais que nous voyions rapidement ensemble ce matin. Premièrement, pour le bien des disciples. Deuxièmement, pour convaincre le monde. Et troisièmement, pour conduire les apôtres. Et le plan de ce message est au dos de vos feuillets pour vous aider à suivre et à prendre des notes. Mais je vous invite à prier avant toute chose. Notre Dieu, notre Père, ta parole, la Bible est la vérité. Nous prions que tu nous purifies, que tu nous sanctifies par ta parole maintenant. Et au nom de Jésus, nous le prions. Amen. Je vais bientôt mourir. Alors assurez-vous, cette nouvelle ne me concerne pas. Enfin, j'espère. Elle concerne Jésus, qui après avoir passé 3 ans de sa vie avec ses disciples, leur annonce à partir du chapitre 13 de l'évangile de Jean, que l'heure de passer de ce monde au Père est venue, qu'il est avec eux pour un peu de temps. Alors, si vous connaissez un peu l'évangile de Jean, vous savez peut-être que les disciples n'ont pas très très bien compris ce que Jésus voulait dire. En fait, son départ est synonyme de quoi? De sa mort, de sa résurrection et de son ascension auprès du Père. Mais cela ne les empêche en aucun cas, les disciples, d'être tristes et troublés dans leur cœur. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus va leur dire au début du chapitre 14 que votre cœur ne se trouble pas. Jésus leur a non seulement annoncé qu'il allait partir, mais aussi qu'il allait être trahi par l'un d'entre eux, vous vous rappelez? Bonjour l'ambiance. Qu'il allait être renié, non pas une, non pas deux, mais 3 fois, par le plus zélé des disciples, Pierre. Que ses disciples, après son départ, après sa mort, sa résurrection, son ascension, vont être dispersés dans un monde hostile qui va les persécuter à cause de leur foi. Bref, bon courage les amis, je vous souhaite vraiment du courage. Mais Jésus va les consoler. Comment? Eh bien de manière très très surprenante, en leur disant, écoutez bien, en leur disant qu'il vaut mieux pour eux qu'ils s'en aillent, que c'est pour leur bien. Regardez ce que dit Jésus. Jean chapitre 16, versets 5 à 7 pour commencer. Jean chapitre 16, versets 5 à 7. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Les disciples sont vraiment sous le choc, mettons-nous à leur place. Les questions qu'ils ont posées à Jésus dans les chapitres précédents, « Où vas-tu, Seigneur ?» ont été remplacées par la tristesse. Vous avez vu au verset 5? Et que leur dit Jésus pour les consoler? Qu'est-ce qu'il leur dit? Ils vont être envoyés dans un monde hostile, persécutés pour le foi. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Je n'invente rien, qu'il vaut mieux, qu'il est avantageux pour eux, qu'ils s'en aillent. Est-ce que ça vous surprend? C'est surprenant, non? Vous allez souffrir, les amis, je m'en vais. Ciao, bon courage. Comment comprendre? Qu'y a-t-il de plus avantageux au monde que la présence physique de Jésus aux côtés de ses disciples? Qu'y a-t-il de plus avantageux au monde? Réponse, sa présence. Sa présence par son esprit qui ne pourra pas venir si Jésus ne s'en va pas. Je ne sais pas vous, mais il m'arrive parfois de lire les évangiles et d'envier la situation des disciples. Ah, si seulement comme eux, j'avais pu vivre aux côtés de Jésus. Si seulement comme eux, j'avais pu le toucher, entendre le son de sa voix. Le voir faire des miracles, si seulement j'avais pu le voir, mais ressusciter des morts, faire des miracles, si seulement j'avais pu prendre un café avec lui, ça aurait été génial, si seulement. Mais j'oublie peut-être que les disciples ont dû vivre avec deux désavantages majeurs pendant le ministère terrestre de Jésus. Premier désavantage, la présence de Jésus pendant son ministère terrestre en tant qu'homme sur terre n'était que local. La présence physique de Jésus en Israël il y a 2000 ans était limitée dans le temps et dans l'espace. Jésus ne pouvait pas être à deux endroits en même temps, c'était pas possible. Quel bienfait le Saint-Esprit dont l'envoi ne sera possible qu'après le départ de Jésus. Quel bienfait le Saint-Esprit va-t-il apporter aux disciples? Eh bien, il va les aider en étant toujours avec eux dans un monde hostile. Il va universaliser la présence de Jésus en la rendant disponible et accessible n'importe où et n'importe quand. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, à Rome, à Lyon. Que nous soyons ici ou à Gerland. Premier désavantage, la présence de Jésus n'était que locale. Deuxième désavantage majeur avec lequel les disciples ont dû vivre pendant le ministère terrestre, je précise, de Jésus, c'est que sa présence n'était qu'extérieure. En tant qu'homme, Jésus ne pouvait pas rentrer à l'intérieur de ses disciples, dans leur cœur, pour vivre en eux et les transformer. C'était pas possible. Quel bienfait le Saint-Esprit va-t-il leur apporter, encore une fois? Quel bienfait? Eh bien, il va... Alors, je ne sais pas si le mot existe, vous chercherez dans le petit Robert, il va internaliser la présence de Jésus. Il va rendre sa présence possible, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de ses disciples, dans leur cœur, pour vivre en eux et les transformer. Alors, vous voyez, Jésus s'en va, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est pour le bien de ses disciples et c'est pour votre bien aujourd'hui. C'est pour votre bien. Jésus va envoyer le Saint-Esprit qui va rendre sa présence non plus locale mais universelle, si bien que quand les chrétiens du monde entier à Lyon, en Australie, dans le reste du monde vont à l'église, eh bien Jésus est là, présent au milieu d'eux, au Brésil aussi, hein, je vous rassure tout de suite. Si bien que quand vous êtes seul, en fait vous n'êtes pas seul, est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Quand vous êtes seul, si vous êtes chrétien, disciple de Jésus, vous n'êtes pas seul. Pourquoi? Tout simplement parce que Jésus est là, présent en vous par son esprit, qui rend sa présence non plus extérieure, mais intérieure. Si vous êtes chrétien, disciple de Jésus ce matin, vous ne pouvez pas être plus proche de Jésus que vous l'êtes actuellement. C'est pas possible. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus vit en vous. Par son esprit, vous êtes son temple. Vous êtes sa maison. Quel privilège, n'est-ce pas? Quel privilège. Le Saint-Esprit va donc être envoyé pour le bien des disciples, mais aussi pour œuvrer au travers d'eux. Et c'est ce que je vous propose de voir dans un second temps, des versets 8 à 12. Jean chapitre 16, des versets 8 à 12. Et quand il sera venu, il s'agit du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Alors à propos de ces versets qui m'ont fait suer, qui m'ont empêché de dormir, Alex en est témoin, Jonah aussi parce qu'on en a parlé, Jean Calvin, qu'on ne présente plus, écrit ceci dans son commentaire du livre de Jean. Laissons là la diversité des expositions que l'obscurité de ce passage a engendré, donc j'interprète, ce passage est obscur, il a engendré diverses expositions, et Calvin laisse là la diversité des expositions. Je dirais seulement ce qui me semble être conforme à la vraie intention du Christ. Fin de citation. Question, quelle est la vraie intention de Jésus dans ces versets? C'est vraiment, vraiment pas facile. Je n'ai pas du tout la prétention d'avoir tout compris, mais après avoir lu Calvin et d'autres commentateurs chevronnés, expérimentés, il me semble vraiment que ce passage, que les versets 8 à 12, font principalement référence à l'œuvre du Saint-Esprit qui, à partir de la Pentecôte, d'accord, va rendre la prédication des apôtres, l'annonce de l'Évangile, si vous voulez, vive et efficace pour frapper la conscience des Juifs et des non-Juifs, qui représentent un peu l'ensemble de l'humanité. Peut-être pas nécessairement tous les hommes et les femmes de tous les temps, mais l'ensemble, d'accord, de l'humanité qui est représentée par les Juifs et les non-Juifs, pour les convaincre de trois choses. Premièrement, verset 9, vous avez vu, de péché parce qu'ils ne croient pas en Jésus. En fait, convaincre le monde de péché, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Mais c'est exactement ce que Jésus a fait. Chapitre 15, verset 22 du livre de Jean. Je vous le lis, Jésus dit, « Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé au monde, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. » Par sa venue et son enseignement, en un sens, c'est exactement ce que Jésus est venu faire. Il a déjà convaincu le monde de péché. Il a déjà condamné la corruption, la perversité du cœur humain, de la nature humaine, l'infidélité des hommes qui l'ont rejeté et n'ont pas cru en lui. Mais vous voyez, c'est exactement, à mon sens, ce que le Saint-Esprit va continuer à faire en rendant la prédication des apôtres, l'annonce de l'Évangile vive et efficace pour convaincre le monde qu'il est coupable. Coupable non seulement de ne pas avoir cru en Jésus, mais pire encore, de l'avoir fait mourir, de l'avoir crucifié. C'est grave. Et vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé. Pour des hommes et des femmes qui ont eu le cœur vivement touché, la Bible, dans certaines versions, dit transpercé suite au discours de Pierre dans les Actes des Apôtres. Vous vous rappelez ce discours de Pierre dans les Actes des Apôtres, après la Pentecôte, Pierre prêche à une foule de personnes, il leur annonce en fait qu'ils ont fait mourir l'auteur, le prince de la vie qui est Jésus, et la réaction de la foule c'est « Que devons-nous faire pour devenir chrétiens? Que devons-nous faire? Nous avons le cœur transpercé !» C'est exactement l'action du Saint-Esprit qui convainc le monde de péché parce qu'il n'a pas cru en Jésus. Et pire encore, il l'a fait mourir. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, mais aussi de justice. Vous avez vu verset 10. De justice, car Jésus va auprès du Père et les disciples ne le verront plus. Après avoir révélé convaincu le monde de péché, qu'est-ce que va faire le Saint-Esprit? En fait, c'est assez logique. Il va le convaincre de justice. Il va révéler, à mon sens, la justice de Jésus. Vous vous rappelez, le monde a condamné Jésus pensant qu'il était coupable sur une croix, pensant qu'il était injuste, mais Jésus a été justifié, innocenté. Et je vous pose cette question, à votre avis, à quel moment de l'histoire de salut, à quel moment de l'histoire, du déroulement de l'histoire biblique, Jésus a-t-il été justifié selon vous? Question que je vous pose. À mon avis, au moment où il est allé auprès du Père, au moment de sa résurrection, 1 Timothée chapitre 3 verset 16 dit que Jésus a été justifié par quoi? Par l'Esprit. Comme si cet événement avait prouvé son innocence. Comme si cet événement avait prouvé que Jésus n'était pas mort pour ses propres péchés, mais pour ceux du monde, pour les vôtres, pour les miens. Et que le seul moyen d'être déclaré juste devant Dieu, le seul moyen d'avoir la vie éternelle, était de croire en lui. Par la foi, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et enfin de jugement. Alors là, accrochez-vous. Verset 11. Vous êtes avec moi? Verset 11. Du jugement, car le chef de ce monde, dans la Bible, le chef de ce monde, c'est Satan, le diable, l'accusateur, est jugé. Pas facile. Je me suis arraché les cheveux. Après avoir révélé le péché du monde, après avoir révélé la justice de Jésus, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire dans le cœur de ceux qui ne croient pas en lui? Je pense qu'il va lui révéler la terrible réalité du jugement dernier. Il va lui révéler que s'il ne croit pas en Jésus, c'est terrible. Il sera jugé, tout comme Satan, le diable, a été jugé sur la croix. En fait, sur la croix, Satan a été jugé dans le sens où la mort de Jésus, qui a accepté de prendre sur lui le poids de nos péchés, qui a accepté de payer le prix de nos péchés, qui a donné sa vie en rançon pour beaucoup, sur la croix, Satan a été désarmé, jugé dans le sens où il a été dépouillé, dans le sens où sa capacité à condamner le monde a été enlevée. Pourquoi? Parce que Jésus a pris cette condamnation sur lui, à notre place. En fait, la croix est un peu l'avant-première, comme au cinéma. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au cinéma récemment, mais la croix est un peu l'avant-première, une sorte de préfiguration du jugement dernier, après lequel Satan et tous ceux qui l'auront suivi, eh bien, seront condamnés pour l'éternité, parce qu'ils auront refusé de croire en Jésus, parce qu'ils se seront rebellés contre lui. Et vous voyez, c'est cette réalité, mais terrible, du jugement. C'est cette réalité terrible de ce qu'on appelle aussi en théologie le châtiment éternel. C'est de cette terrible réalité, pardon, que le monde sera convaincu. Principalement, encore une fois, au travers de la prédication des apôtres. Principalement au travers de l'annonce de l'évangile, rendue vive et efficace dans le cœur de ceux qui ne croient pas, par le Saint-Esprit. Comme Alex l'a dit, je travaille pour les groupes bibliques universitaires, le plus beau métier du monde, comme vous le savez tous. Le but du GBU est de faire connaître la Bible et par elle l'évangile dans le monde universitaire. Si vous êtes étudiant, je vous invite à venir me voir à la fin du culte. Nous avons un sondage qui est selon moi très adapté aux besoins de nos amis étudiants. C'est un sondage qui a pour but, comme son nom l'indique, de sonder les croyances des étudiants, qu'ils soient chrétiens, non chrétiens, croyants, non croyants ou agnostiques, d'accord? Donc il a trois cases, si je ne crois pas, si je crois et si je ne sais pas. Et il y a des questions qui correspondent à chaque cas de figure, c'est très approprié. Et parmi les questions correspondant à la catégorie, eh bien, je crois en Dieu, il y a une question très intéressante. Si tu crois en Dieu, quelle relation entretiens-tu avec lui? Est-ce que vous savez la réponse qui est la plus couramment donnée à cette question? C'est très intéressant. Réponse, je fais tout pour essayer d'être juste. Je fais tout pour essayer d'être juste. Et là, je pose une question à mon tour. Mais qui va convaincre ces personnes de péché, de justice et de jugement? Qui va prouver leur culpabilité objective, leur état de pécheur devant Dieu? C'est pas moi en tout cas, c'est pas mon propre pouvoir de persuasion qui est nul et non avenu. J'en suis strictement incapable. Comment ces personnes vont-elles prendre conscience de la folie, mais de la pure folie, qui consiste à croire que nous pouvons être déclarés justes devant Dieu et échapper à son jugement sur la base de notre propre justice. Mais quelle folie ! Qui va convaincre ces personnes de péché, de justice et de jugement ? Pas moi en tout cas. Seul le Saint-Esprit en est capable. La vivacité et l'efficacité de votre témoignage, si vous êtes chrétien, de votre annonce de l'Évangile, dépend radicalement, totalement, de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Alors de quoi dépendez-vous ? Sur quoi comptez-vous le plus quand vous parlez de Jésus à vos amis, quand vous annoncez l'Évangile, quand vous témoignez de notre foi ? Sur quoi est-ce que vous comptez ? De quoi est-ce que vous dépendez ? Est-ce que vous avez déjà prié que le Saint-Esprit soit à l'œuvre au travers de la parole que vos amis entendent ? Vous avez déjà prié pour ça. Son rôle au Saint-Esprit est de convaincre. Le nôtre est simplement d'annoncer, de témoigner. Annoncer l'Évangile en ayant l'assurance qu'il repose sur des bases solides. Le Saint-Esprit va donc être envoyé premièrement pour le bien des disciples, vous vous rappelez, versets 5 à 7. Deuxièmement pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, versets 8 à 12. Et enfin, c'est mon dernier point, pour conduire les apôtres, des versets 13 à 16 que je vous invite à lire. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez parce que je vais auprès du Père. C'était le verset 16. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais c'est le moment de se réveiller. Ce passage contient l'une des plus belles promesses, du Nouveau Testament, dont l'accomplissement se trouve dans vos mains. Sous vos yeux ce matin, à la Pentecôte, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit pour être des témoins de Jésus, pour être conduits, guidés, inspirés dans quoi ? Dans la rédaction du Nouveau Testament que nous sommes en train de lire ce matin. C'est dingue, non ? C'est incroyable ! Le Saint-Esprit a conduit les apôtres dans la compilation, écoutez bien, des registres authentiques et éternels de la révélation promise, sortant directement des secrets du sanctuaire céleste. C'est beau, non ? C'est beau, non ? C'est pas de moi, je vous rassure tout de suite. Encore une fois, c'est de Calvin. Le Saint-Esprit est venu pour aider les apôtres à se souvenir de ce que Jésus avait dit. Jean, chapitre 14, verset 26. Pour les rendre capables d'annoncer les choses à venir. Vous avez vu, c'est au verset 13. Non pas de nouvelles vérités au sujet de Jésus, pas du tout. Mais toute la vérité, vous saisissez la nuance ? Pas toute, pas une nouvelle vérité en ce qui concerne Jésus, mais toute la vérité au sujet de Jésus, la portée, les implications théologiques de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, du don du Saint-Esprit, de son retour et de son jugement dernier. C'est-à-dire en fait la suite du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit est venu pour conduire les apôtres dans la rédaction de la suite du Nouveau Testament, pour parler de Jésus. Regardez encore les versets 13 et 14. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, pas du tout. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Autrement dit, le Saint-Esprit parle la langue de Jésus. Le Saint-Esprit ne parle pas une autre langue que celle de Jésus. De la même manière que Jésus n'a pas parlé de lui-même, vous vous rappelez ce que Jésus a dit, notamment au chapitre 5 de l'Évangile de Jean, de la même manière que Jésus n'a pas parlé de lui-même, mais que tout ce qu'il a dit venait du Père, de la même manière. Le Saint-Esprit ne parlera pas non plus de lui-même, mais dira ce qui vient de Jésus. Et c'est comme ça que Jésus sera glorifié. Vous voyez le lien ? C'est comme ça que le Saint-Esprit contribuera à faire connaître Jésus, à le faire reconnaître dans le monde, en prenant ce qui est à lui, en annonçant la vérité qu'il a enseignée et qui le concerne, et en le glorifiant. Tout ça, encore une fois, à mon avis, hein, à mon avis, au travers des apôtres, que le Saint-Esprit va conduire, garder, guider dans la rédaction du Nouveau Testament, dans l'annonce de la vérité concernant Jésus, pour qu'il soit connu et reconnu, accepté et glorifié pour ce qu'il est, le Créateur de tout ce qui existe. C'est ce que dit le prologue du livre de Jean, au chapitre 1. Le Seigneur, le Sauveur, Dieu venu dans le monde, dans la personne du Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec des amis non chrétiens de votre foi en Jésus, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore dans le cadre de mon travail, c'est très intéressant. Et j'ai souvent entendu l'objection suivante, et c'est peut-être l'objection que vous avez déjà entendue. Mais écoute Jonathan, mais tu sais très très bien que la Bible n'est pas fiable. Tu sais très bien que la Bible a été falsifiée au cours des siècles. Comment est-ce que vous auriez répondu à cette objection? La Bible n'est pas fiable, elle a été falsifiée. Je vous donne trois pistes de réflexion. La façon dont je réponds, généralement, ce n'est pas du tout la façon la plus parfaite de répondre à cette objection. Je réponds à cette question en posant trois questions. Premièrement, qui a falsifié la Bible? Qui? Je veux savoir, c'est important. Deuxièmement, quand la Bible a-t-elle été falsifiée? À quelle période de l'histoire? Ok? Troisièmement, où a-t-elle été falsifiée? Dans quel pays? J'ai donné mon numéro de téléphone, j'ai donné mon email, vous pouvez me croire, personne. Personne n'a jamais été en mesure de répondre à ces questions. Où la Bible a-t-elle été falsifiée? On a le droit de savoir en tant que chrétien. C'est grave si la Bible a été falsifiée. Quand a-t-elle été falsifiée? On a le droit de savoir, c'est grave, c'est la parole de Dieu. Qui l'a falsifiée? C'est grave, encore une fois. On a le droit de le savoir. Si vous avez des doutes sur l'inspiration de l'écriture, de la Bible, si vous avez des doutes sur la fiabilité de la Bible, je ne peux que vous encourager personnellement à la lire et à l'étudier très sérieusement, sans rigoler, pour constater par vous-même sa cohérence interne, par exemple. 66 livres, rédigés par près de 40 auteurs différents, sur une période s'étalant sur plus de 1500 ans, avec un message central commun. L'accomplissement de plusieurs prophéties, dont celle de la mort et de la résurrection de Jésus, annoncée, tenez-vous bien, près de 600 ans avant sa naissance. Si vous n'avez pas de doute sur l'inspiration des Écritures, sur sa fiabilité, eh bien, que vous inspire l'inspiration de la Bible? Que vous inspire l'inspiration de la Bible? Que vous inspire ce que Dieu a fait miraculeusement dans l'esprit d'auteur pleinement humain, qu'il a souverainement guidé pour la rédaction de sa parole? Que vous inspire la vérité du témoignage apostolique, un témoignage oculaire et privilégié? J'espère que cette inspiration vous inspire une grande confiance en trois choses inébranlables sur lesquelles je m'arrête. Trois choses. Premièrement, l'infaillibilité. On parle aussi d'inhérence. Le terme est peut-être plus précis. La Bible est sans erreur quant à son sens. C'est la parole de vérité inspirée par l'esprit de vérité. Quand vous lisez la Bible, j'espère que vous la lisez, vous pouvez avoir l'assurance que ce qu'elle dit est vrai, tant sur le plan dogmatique qu'historique. Si vous prenez un avion jusqu'à Jérusalem, si vous prenez un taxi à Jérusalem pour aller dans les régions de Jérusalem, vous pouvez avoir l'assurance que ce que vous lisez dans les évangiles est vrai, tant sur le plan dogmatique qu'historique. Est-ce que vous avez confiance en l'infaillibilité de la parole que vous lisez? Mais est-ce que vous avez aussi confiance en son autorité? Calvin disait, la Bible est le sceptre du règne de Dieu sur les siens. Elle a le pouvoir légitime de régner sur nous, de déterminer la conduite de notre cœur et de notre corps, de nos pensées et de nos actions, de nos jugements et de nos comportements. Quelle est votre source ultime d'autorité dans la vie? Est-ce que c'est l'expérience? Je fais ce qu'il me plaît. Est-ce que c'est la raison? Je décide par moi-même, par le biais de la raison autonome, de ce qui est bien et ce qui est mal. Ou est-ce que c'est ce que Dieu dit dans sa parole, sur le plan moral notamment? Est-ce que vous vous soumettez? Est-ce que je me soumets à cette parole dans tous les domaines de ma vie? Enfin, son utilité. Son utilité. La Bible est un peu comme un couteau suisse. On m'avait offert un couteau suisse il y a quelques années, je l'ai perdu, ou on me l'a volé, je ne sais pas. Un couteau suisse est un outil multifonction utile. De Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, pour enseigner, pour convaincre, le mot est le même dans ce passage. Pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Est-ce que vous avez toujours cet outil qu'est la Bible, ce couteau suisse, avec vous? Dans votre sac à main, dans votre sac à dos, dans votre poche? L'utilisez-vous pour répondre aux questions des amis qui vous posent des questions sur la foi chrétienne? L'utilisez-vous pour témoigner de votre foi? Mais surtout, et ce sera l'une de mes dernières phrases, surtout, est-ce que vous priez que le Saint-Esprit, qui a inspiré cette parole de vérité, œuvre au travers d'elle de manière vive et efficace, pour convaincre le monde, ceux qui ne croient pas, vos amis non chrétiens, de péché, de justice et de jugement, pour que Jésus soit connu et reconnu, accepté et glorifié. N'est-ce pas là finalement le but de la vie chrétienne? Annoncer l'évangile aussi fidèlement que possible, pour que Jésus soit glorifié. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci infiniment pour le don de ton esprit que tu as envoyé pour notre bien, pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, et aussi pour conduire les apôtres dans toute la vérité te concernant. Nous te remercions pour ce privilège et nous prions que tu œuvres, Seigneur, par ton esprit, au travers de cette parole, pour que tu sois glorifié, pour que le monde soit convaincu de péché, de justice et de jugement, pour que tu sois accepté pour ce que tu es, le Seigneur, le Sauveur, Dieu en personne. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.